RFI. Merci d'écouter RFI. 8h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain avec Haïti à la une. Haïti où les gangs ont de nouveau semé la terreur ces dernières 24 heures. Attaque meurtrière à Tabar, déplacement forcé d'habitants à Delma 30. La capitale et ses environs sont victimes de nouvelles violences. Nous verrons aussi que les Haïtiens installés aux États-Unis craignent pour leur avenir, notamment depuis que Donald Trump a décidé de durcir les conditions d'accueil et promis, on l'avait entendu pendant sa campagne, la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis. On parlera aussi de la répression mise en place par le président du Nicaragua et son épouse. Un nouveau rapport sort sur cette question. On parlera aussi de la pollution aux Galapagos et puis de l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour. Benoît Ferrand, on parlera d'abord avec vous de la Guadeloupe, particulièrement accueillante pour les métropolitains qui veulent changer de vie. Ça n'est pas forcément l'avis des personnes qui se trouvent sur place.
C'est un article du journal Le Parisien qui l'affirme. Il y a des communes en Guadeloupe qui seraient très attractives pour les métropolitains. Eh bien, cet article n'a pas manqué en effet de faire réagir sur Internet. Précision à suivre.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Mais d'abord, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On prend d'abord la direction d'Israël, où l'émotion est très grande aux obsèques de la famille Bibas.
Le père, Yarden Bibas, retenu en otage par le Hamas, mais libéré depuis, a demandé pardon à sa femme et ses deux jeunes enfants morts en captivité à Gaza. Pardon pour ne pas avoir réussi à les protéger. La famille Bibas appelle aussi tous les responsables israéliens à assumer leurs responsabilités, des responsables accusés d'avoir préféré la vengeance à la libération des otages. Une foule immense s'était rassemblée entre la banlieue de Tel Aviv et le kibboutz de Nir Oz, au passage du cortège funéraire. Sur la place des otages à Tel Aviv, l'émotion est aussi palpable. Écoutez cette femme qui n'est pas allée travailler pour pouvoir se recueillir.
Je suis une maman et j'ai trois enfants et vous savez, c'est un jour très triste pour moi. Je pense à Chéri, à son mari, aux petits. Je suis dévastée pour cette famille. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme un autre où l'on va travailler. J'ai posé une journée et en étant ici avec cette foule, je me sens plus proche des Bibas et de ma nation. Tous les Israéliens devraient se recueillir aujourd'hui. C'est ce qu'il convient de faire. Regardez, je suis venue avec mon sac jaune car c'est la couleur des otages. Ils doivent tous rentrer à la maison.
Oui. Des propos recueillis, place des otages à Tel Aviv par Pierre Olivier. Et Israël et le Hamas ont finalement accepté de poursuivre l'échange otages contre prisonniers. Un accord a été trouvé sous l'égide de l'Égypte. L'État hébreu avait exigé la fin de la mise en scène des libérations d'Israéliens pour poursuivre le processus. Le mouvement islamiste palestinien accusait Israël de mettre en danger la trêve. Quatre corps d'otages, dont celui du franco-israélien Ohad Yahalomi, vont être restitués demain. 620 prisonniers palestiniens doivent être relâchés, eux, samedi.
Le deal est en passe d'être signé entre l'Ukraine et les États-Unis.
Après des semaines de bras de fer, Kiev aurait accepté les termes de l'accord sur ses minerais avec les États-Unis. Volodymyr Zelensky pourrait le signer dès la fin de la semaine à Washington. Donald Trump a exigé d'avoir accès à ces terres rares pour compenser les milliards de dollars d'aide versés par l'administration Biden. Washington développerait conjointement avec l'Ukraine les richesses minières et les revenus qui en seraient issus. Face à la pression américaine, l'Europe a débriefé ce matin. Autour d'Emmanuel Macron, le président français a rendu compte de sa rencontre avec Donald Trump. Une nouvelle réunion par visioconférence entre les 27 qui tentent de s'imposer à la table des négociations. Pierre Benazet, vous êtes en direct de Bruxelles. Pierre, les 27 regardent avec un intérêt tout particulier le deal sur les minerais.
Effectivement, le président français était en quelque sorte mandaté pour asseoir aux yeux de la Maison-Blanche la nécessité pour les Européens d'être à la table des négociations. Et dans ce contexte, l'accord américano-ukrainien à venir pour l'exploitation des matières premières critiques les intéresse au plus haut point. Le refus initial, ce qui était en fait une mainmise des États-Unis sur 500 milliards d'euros de ressources minières ukrainiennes, avait provoqué la fureur de Donald Trump. Il avait traité Volodymyr Zelensky de dictateur. À Washington, Emmanuel Macron a publiquement contredit Donald Trump sur l'importance du soutien financier des États-Unis à l'Ukraine, en soulignant que les Européens avaient financé 60% du soutien militaire, et au même moment, le marché proposé par les Américains a été ramené à 90 milliards. Pendant ce temps-là, les Européens cherchent toujours à exister et à faire valoir leurs intérêts. Ils proposent eux aussi un accord sur les matières premières, mais un accord à l'européenne, et donc beaucoup plus bénéfique pour l'Ukraine, selon eux, d'autant que le Kremlin envisage maintenant de vendre aux États-Unis les ressources du sous-sol des régions ukrainiennes sous occupation russe, comme la Crimée ou les oblasts de Luhansk et Donetsk.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Le président français a aussi évoqué à Washington l'envoi de troupes européennes pour garantir la paix après un éventuel cessez-le-feu. Donald Trump lui a assuré que Moscou l'accepterait. En attendant, Donald Trump entend bien poursuivre son offensive sur le dossier ukrainien. Une nouvelle réunion est prévue avec les Russes demain à Istanbul après Riyad la semaine dernière.
La pression américaine concerne aussi les droits de douane et l'Europe tente d'y faire face.
Quitte à reculer sur les normes environnementales, la Commission européenne assure qu'il s'agit de trouver le juste équilibre entre concurrence et respect de l'environnement, donner de l'air aux entreprises. L'exécutif européen a dévoilé ce matin un projet qui prévoit de revenir sur certains de ses projets sur le climat, notamment une pause d'un an sur le devoir de vigilance. Ce texte obligeait les entreprises à remédier aux violations des droits humains et aux dommages environnementaux tout au long de l'élaboration de leurs produits. La révision de ces mesures sera soumise à l'approbation du Parlement européen et des États membres. Le monde agricole balance aussi entre intérêts économiques à court terme et intérêts environnementaux. Des agriculteurs qui ont manifesté il y a un an de Paris à Varsovie contre un excès de normes qui les contraint, selon eux, alors que les discussions se tiennent à Rome autour de la COP16 biodiversité avec un but: augmenter les financements qui permettent de protéger la nature. Est-ce que cette priorité est encore audible pour la ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher? Il ne faut pas opposer les intérêts des agriculteurs et de l'environnement. On l'écoute.
Je rappelle que les agriculteurs sont les premières victimes de l'effondrement de la biodiversité. Il ne faut pas perdre de vue cet élément-là. Ils ont une part dans l'effondrement de la biodiversité, mais c'est eux les premières victimes. La baisse des rendements qui a été démontrée par la FAO au plan mondial du fait des pollutions diverses et des conséquences du dérèglement climatique, au passage, est un élément qu'on ne peut ignorer. La multiplication d'un certain nombre d'espèces invasives qui déséquilibrent nos écosystèmes est une réalité. Et tout cela contribue à baisser la capacité des agriculteurs à produire. Donc opposer agriculture et écologie, opposer agriculture et biodiversité n'a pas de sens. Le cœur même du travail de l'agriculteur est d'avoir une production du vivant. Et la biodiversité, c'est le vivant.
Agnès Pannier-Runacher, ministre français de la Transition écologique, elle était interrogée par notre envoyée spéciale à Rome, Lucille Gimbert.
Merci Karine Bellicha. Vous restez avec nous sur RFI, dernière partie de RFI Midi. Nous sommes sur le continent américain et d'abord en Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti qui vit l'horreur enveloppée d'ordinaire, comme l'écrit le journal Le Nouvelliste. Gressier, Fort National, Carrefour Feuille, Tabar, Delma, dans 6 quartiers communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, les gangs tirent, brûlent, pillent, tuent depuis près d'un mois et ces derniers jours encore plus. Dans son éditorial, le célèbre quotidien ajoute « Tout est trop, tout est surréaliste, tout est au-dessus des mots ». L'emprise des gangs s'étend et la terreur avec elle. Les criminels ont forcé des habitants de Delma 30 à abandonner leur maison hier et la coalition de gangs Vivre Ensemble a commis un nouveau massacre meurtrier à Tabar lundi soir. Correspondance, Peterson Luxama.
Cette mère ne peut pas retenir ses larmes en voyant le cadavre de son fils, tué à Delma 30, installé dans une brouette. Dans un va-et-vient incessant, elle crie sa douleur et implore le ciel. Situation dramatique pour des centaines de familles qui sont contraintes d'abandonner leur maison, laissant derrière elles des années de souvenirs réduits en cendres. Trop, c'en est trop, s'indigne ce désormais ex-habitant de Delma 30.
Ce que nous avons durement construit à la sueur de notre front, nous sommes contraints de l'abandonner en fuyant. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous prenons la fuite. Nous n'en pouvons plus.
Parmi ces déplacés se trouvent des enfants et des personnes âgées. Mais pas le père de Samuel qui vivait avec lui à Delma 30. Visage crispé, il raconte comment les malfrats l'ont tué avant de brûler son corps.
Ils ont fait pression sur mon père et finalement, ils lui ont tiré dessus. Pendant ce temps, moi j'étais allongé sous le lit et j'ai entendu l'un d'entre eux dire « mettez le feu ». Les bandits ont brûlé mon père et je n'ai rien pu faire.
Parallèlement, dans la commune de Tabar, les habitants ne sont pas non plus en sécurité. Plusieurs sources rapportent que les gangs ont perpétré un nouveau massacre entre Tabar 25 et 27 dans la nuit de lundi à mardi. Face à cette situation, les autorités restent silencieuses, donnant ainsi de fait carte blanche aux gangs armés pour continuer à terroriser les citoyens. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Face à la violence, il ne reste plus personne pour dire aux irresponsables qui gouverne que la barque coule. Ça aussi, c'est à lire dans le Nouvelliste, qui s'indigne de l'indifférence, lesté d'inefficacité des chefs, alors que le pays surnage dans une mer de sang, de larmes et de cendres. Le journal dénonce ce qu'il appelle des petites manœuvres politiques, alors qu'on approche de la date à laquelle la présidence du Conseil de transition doit changer de main. Les autorités s'occupent de leurs affaires, pensent au confort des fauteuils dans une maison en feu. Et ces nouvelles violences surviennent dans un contexte de tension au sein du Conseil supérieur de la police nationale, dont le chef n'aurait plus la confiance du Premier ministre, selon le Nouvelliste. Malgré cette situation catastrophique en Haïti, à laquelle s'ajoute une crise humanitaire et économique, Donald Trump veut toujours expulser les immigrés haïtiens des États-Unis. Vous vous souvenez peut-être, sûrement, qu'il avait parlé pendant sa campagne de la plus grande opération d'expulsion de l'histoire. Le président a aussi décidé de restreindre le TPS, le statut de protection temporaire accordé à des milliers d'Haïtiens. Il devait durer jusqu'en 2026, mais s'arrêtera finalement en août prochain. Et déjà, la peur gagne ceux qui vivent aux États-Unis. Certains Haïtiens ne prennent plus leurs papiers lorsqu'ils sortent de peur d'être contrôlés. Et tous vivent dans la peur, comme l'a constaté notre correspondante Loubna Anaki, dans le quartier de Little Haiti, à New York. Voici son reportage.
Malgré la musique qui résonne toujours, les rues de Little Haiti sont plus calmes que d'habitude.
Je vis dans un appartement où mes compatriotes, parce qu'on vit en petite communauté, ils ont même peur d'aller emmener leur fils à l'école. Ils ont peur d'aller dans un magasin qui est un petit peu plus loin de chez eux.
Even if we're to go.
Les gens ont même peur d'aller au travail. D'ailleurs, je sors de la boulangerie et ils disent qu'il y a moins de clients. Les commerces en souffrent.
Et si les habitants du quartier se font plus discrets, c'est en grande partie à cause de la politique anti-migrant de Donald Trump et la multiplication des arrestations et des expulsions. Des opérations qui font régner un climat de peur, car même si la majorité des Haïtiens sont en situation régulière, beaucoup d'entre eux vivent et travaillent légalement aux États-Unis grâce au TPS, un programme de protection temporaire dont l'avenir est incertain depuis l'arrivée de Donald Trump. D'autant plus que la semaine dernière, le président a décidé d'écourter la durée de ce statut.
Le mec dirige le pays du bout de son stylo, signant des décrets présidentiels par-ci, par-là. Il peut se réveiller demain et dire « je ne veux plus du TPS pour les Haïtiens » ou « je ne veux plus de ça ». Donc les gens sont très inquiets de ce qui peut arriver.
Pascal Antoine travaille dans un bureau qui offre notamment des services de traduction et des cours de langue aux migrants haïtiens. Sa directrice, Dolores Murat-Etienne, reçoit chaque jour des messages de personnes se disant perdues face aux annonces de Donald Trump.
On n'a même pas encore passé le cap des 3 mois et j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Le président est élu pour 4 ans, donc je me prépare à ce que ce soit un long manège.
Pour rassurer la communauté, Dolores et Pascal ont organisé récemment un atelier avec des avocats spécialisés en immigration pour répondre à toutes les questions. Mais face au climat d'incertitude, ils ont dû suspendre les cours d'anglais car les élèves avaient peur de venir.
Les gens n'étaient pas très à l'aise avec le fait de rester ici tard et parfois les cours d'anglais se transforment en longues discussions qui ne se terminent pas avant 20h, 20h30. Alors on a voulu éviter d'avoir des gens en dehors à cette heure-là.
À une centaine de mètres de ce bureau se trouve HOPE, une autre organisation qui accompagne les Haïtiens dans toutes leurs procédures administratives. Et là aussi, il a fallu tout réorganiser et tout passer en virtuel pour éviter d'avoir trop de monde dans les locaux.
Depuis 50 ans, HOPE, la communauté, c'est son sanctuaire. Et maintenant, tu t'imagines qu'on vienne prendre nos clients dans nos murs. On vivrait ça très mal. That's your baby. She's
beautiful. Elsie Saint-Louis explique qu'il faut se préparer à tout.
On fait une campagne pour dire aux gens de mettre tout en ordre. S'il faut partir soudainement, c'est qui aurait la garde de l'enfant, qui pourrait gérer la maison, mari ou femme, parents. C'est pas évident ce qui se passe là.
Pour elle, les décisions de l'administration Trump n'ont aucun sens.
On parle de déporter tous ces Haïtiens. On les amène où? Les Haïtiens en Haïti sont eux-mêmes là. Leurs vies sont en danger, il y a la insécurité politique, économique et tout ça. Mais il n'y a pas de vol en Haïti sur Port-au-Prince. Il fallait déporter ou les amener où?
Avec la récente décision de Donald Trump, le statut de protection temporaire sera levé début août. Plus de 500 000 Haïtiens en bénéficient aujourd'hui et pourraient se voir menacés d'expulsion. Loubna Naki, New York, RFI.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
C'est un rapport accablant qui montre l'ampleur de la répression mise en place au Nicaragua. Un groupe d'experts mandaté par les Nations Unies publie aujourd'hui un texte sur la dictature de facto désormais en place dans le pays. Reed Brody fait partie de cette mission d'enquête et il parle de ce travail à Paula Estagnol et de la répression méthodique de toute voix dissidente depuis les manifestations de 2018 qui avaient fait plus de 300 morts.
Notre rapport montre comment le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo a systématiquement démantelé les derniers freins à son pouvoir. Il consolide un contrôle total à travers des violations généralisées des droits de l'homme. Nous faisons dans notre rapport la démonstration de comment l'État et le Front sandiniste ont effectivement fusionné en un seul appareil de répression, et au cœur de ce système se trouve une vaste réseau de renseignements qui surveille la population et sélectionne les cibles à réprimer aussi bien à l'intérieur du Nicaragua qu'au-delà de ses frontières.
Et le régime Ortega Murillo, il vient de réformer la Constitution. Quel est l'effet qui peut avoir cette réforme sur les conditions des droits de l'homme au Nicaragua?
En fait, c'est la sentence de mort de l'état de droit et la protection des droits humains au Nicaragua. Maintenant, les citoyens n'ont pas de recours devant des tribunaux indépendants. L'État la présidence a la mainmise sur le pouvoir judiciaire, sur le pouvoir législatif, sur le pouvoir électoral. Il peut disposer de l'armée pour des opérations de police. Il y a maintenant au rang constitutionnel la police volontaire qui fait le triste souvenir des paramilitaires aussi masqués qui ont participé à la répression en 2018 qui a donné lieu à plus de 300 morts. Donc on voit qu'il y a un contrôle total de Daniel Ortega et Rosario Murillo sur tous les pouvoirs de l'État en ce moment et surtout pour pouvoir violer impunément les droits de l'homme.
Ah, les persécutions, les détentions, les disparitions se sont ajoutées aussi, la privation des nationalités, la confiscation des biens. Et comment vous qualifiez ces dérives?
Il n'y a pas d'autres pays dans le monde qui pratique la privation de la nationalité à l'échelle que fait le Nicaragua. 222 personnes détenues qui sont embarquées dans un avion vers les États-Unis, on les déclare traîtres à la patrie et on les prive de la nationalité. 94 personnes aussi en 2023 qui étaient déjà à l'extérieur privées de leur nationalité. L'année passée, en septembre, 135 personnes envoyées au Guatemala, aussi privées de leur nationalité. En plus, la Constitution a été changée pour entériner cette possibilité qui dit que ceux qui sont déclarés traîtres à la patrie sont privés de leur nationalité. Ça, c'est en violation de la Convention sur les cas de l'apatride. Il n'y a aucun autre pays qui fait ça. Donc, Nicaragua est devenu un pays où la silence règne, où les opposants, ceux qui osent opposés, ou ceux qui même sont désignés par le régime comme opposants, doivent se résigner à une vie d'apatrie et d'exil.
Des propos recueillis par Paola Estagnol de la rédaction en espagnol de RFI.
Anne Contner.
La vie reprend petit à petit au Chili après une panne de courant majeure qui a paralysé le pays hier, au point que le gouvernement avait décrété l'état d'urgence et un couvre-feu levé il y a seulement quelques heures. Cette panne géante d'électricité liée à un problème de distribution a affecté plus de 95% des 20 millions d'habitants du Chili. Récit de notre correspondante Naila Derouane.
Dans la capitale, le métro a cessé de fonctionner au moment de la coupure de courant. Les plans d'évacuation ont été activés et des milliers de personnes ont dû sortir des wagons. Trinidad et Cristobal se sont retrouvés en plein milieu de la ville à ce moment-là, avec les feux de circulation en plus complètement éteints.
Dans beaucoup d'endroits, il n'y avait personne pour contrôler le trafic. Les voitures traversaient n'importe comment, un vrai Tetris.
Les routes étaient bouchées et c'était le chaos. Les gens traversaient dans tous les sens. Beaucoup de gens dans la rue essayaient de monter dans les bus, mais ils étaient bondés.
Certains ont alors préféré rentrer chez eux à pied. C'est le cas de Piero.
On a de la chance avec mon collègue. On habite à 50 minutes à pied. Mais j'ai d'autres collègues qui, en temps normal, mettent entre une heure et une heure et demie en transport en commun pour rentrer chez eux.
Quant à Kelly, elle prend d'habitude le métro pour rentrer chez elle. Impossible pour cette fois. Et elle n'a pas voulu monter dans les bus blindés. Elle a appelé son mari pour qu'il vienne la chercher en voiture.
Pendant plus d'une heure et demie, je n'ai pas pu le joindre. Et puis après, je me suis mise à penser qu'avant, on était bien sans les téléphones. Aujourd'hui, sans portable, sans Internet, on est désespérés.
À la tombée de la nuit, des hélicoptères survolaient la ville avant qu'elle ne soit plongée dans l'obscurité la plus totale. Naila Derouane, Santiago, RFI.
Reportage maintenant auprès de ceux qui se font appeler les gardiens des Galapagos, des défenseurs de l'environnement engagés contre la pollution plastique. Leur objectif, réduire d'au moins 30% les déchets plastiques qui abîment cet archipel classé au patrimoine mondial de l'humanité. En Équateur, la compagnie Tion a installé 4 systèmes de captation de plastique sur les rivières et les fleuves du pays. Et notre correspondant Eric Sanson a pu en visiter un sur la rivière San Pedro, près de Quito.
Elles ont beau être isolées à plus de 1000 km de l'équateur continental, les îles Galapagos ne sont pas protégées de la contamination par le plastique. Les déchets proviennent des navires de pêche, mais pas seulement. Inti Grönberg est le fondateur de la compagnie Tion.
Les Galapagos sont menacés par la contamination plastique qui vient d'Équateur et du Pérou. Tout ce qui sort des fleuves termine, grâce au courant marin, aux Galapagos, où plus de 57 espèces sont menacées. Des études montrent que toutes les tortues géantes ont des traces de microplastiques dans leur organisme.
C'est en 2017, alors qu'il était encore étudiant, qu'Inti Grönberg a commencé à développer son système dans le cadre d'un concours organisé par son université, l'Imperial College de Londres. Un prototype qui a depuis été amélioré par sa compagnie Ition Limited.
Nous avons une équipe de 5 ingénieurs en Équateur et 2 de plus en Angleterre, dont l'objectif est de développer une technologie qui puisse récupérer les plastiques efficacement, les concentrer, les extraire de l'eau et les analyser.
Ces 5 dernières années, la compagnie Ition a installé 4 systèmes de captation de plastique en Équateur. Un sur la rivière Tajamar au nord, qui capte surtout des déchets plastiques agricoles. 2 sur les fleuves Porto Viejo et Charapoto, qui donnent directement sur le Pacifique, et le dernier sur le San Pedro, près de Quito. Dans la zone rurale de la capitale, la collecte des ordures est loin d'être optimale, selon José Pérez, travailleur d'Iction Limited.
Il y a des chiffres concernant le ramassage des déchets dans les zones urbaines et rurales. Sans surprise, les zones rurales voient passer beaucoup moins de camions poubelles que dans les villes. Évidemment, cela augmente les décharges sauvages et la quantité de plastique qui finissent dans les rivières.
Sans compter une urbanisation souvent anarchique, selon Juan Bedoya, autre travailleur de la compagnie.
Il y a des maisons, des logements au bord de la rivière où les camions poubelles passent rarement et il est plus simple de tout jeter dans l'eau. Ce sont les déchets que nous récupérons ici, en aval, avec nos systèmes de San Pedro Cununaco.
Le système est composé d'une barrière qui dirige les déchets vers une rive où se trouve un système d'extraction automatique. Le plastique est déposé directement sur terre et non pas dans un conteneur sur la rivière. Il n'y a donc pas de limite à la quantité de plastique que le système peut extraire. Ensuite, entre en action l'intelligence artificielle, comme l'explique Jessica Benavides, vice-présidente des relations stratégiques de la compagnie.
Tout ce que nous sortons de l'eau est pris en photo en temps réel et transformé en data. Cela nous permet d'identifier les déchets que nous consommons en grand nombre, mais aussi les marques dont les produits sont les plus rejetés dans l'environnement, afin de les aider à développer des campagnes de diminution. Le troisième point est la génération de politiques publiques basées sur des faits pour trouver des solutions stratégiques au niveau de l'État.
Ce système breveté a reçu plusieurs prix internationaux. Son installation est financée par des compagnies intéressées par l'objectif d'Icton Limited. Inti Grunberg.
Notre défi est de réduire les arrivées de plastique aux Galapagos d'au moins 30%. Ce n'est pas facile et cela va contre une tendance mondiale. En 2017, on estime que 7 millions de tonnes de plastique terminaient chaque année dans les océans. Aujourd'hui, c'est le double. Mais ici, en Équateur, nous pensons être capables d'inverser la tendance d'au moins 30%.
Et les objectifs futurs de la compagnie sont ambitieux. Selon Jessica Benavides.
Nous avons récupéré environ 78 000 livres de résidus, environ 39 tonnes. Notre but aujourd'hui est d'intervenir sur les deux fleuves les plus importants du pays, le Guayabamba et le Guayas avec leurs affluents, les fleuves Dole et Babahoyo. Ces fleuves sont proches des villes de Guayaquil et Quito et charrient énormément de déchets, entre 2400 et 2600 tonnes chaque jour rien que dans la capitale, et dans le fleuve Guayas plus de 3500 tonnes.
Le public peut également donner. Pour chaque dollar, la compagnie certifie qu'un demi-kilo de plastique ne contaminera pas les côtes des Galapagos. Le plastique récupéré est donné aux recycleurs artisanaux pour augmenter leurs revenus. Derek Sanson, Quito, RFI.
Un reportage à retrouver sur l'application RFI Pure Radio et sur internet rfi.fr.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer françaises et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Guadeloupe, qui attire beaucoup de métropolitains qui voudraient changer de vie. Ça, c'est sur le papier et du côté des métropolitains, mais sur place, les avis sont un peu plus nuancés.
Le Gosier, Petit-Bourg, Saint-Claude, selon le journal Le Parisien, ces trois communes de la Guadeloupe seraient les plus attractives pour les hexagonaux friands d'une autre vie au soleil. Un article qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes guadeloupéens. Florence Perroumal.
Les internautes n'y sont pas allés de main morte. L'article a été vu plus de 2 millions de fois sur le réseau social X et a généré 300 commentaires. Beaucoup ont sauté sur l'occasion pour rappeler les réalités du quotidien en Guadeloupe. Vie chère, coupure d'eau, panne d'électricité, chômage, grève à répétition et violence. Certains ont raconté leur propre expérience en décrivant un accueil glacial et une hostilité présumée envers les métropolitains. D'autres ont préféré mettre en avant le folklore local, le coq du voisin qui vous réveille, la voiture à pain qui klaxonne à l'aube, les scooters bruyants, les embouteillages et les moustiques. Une majorité a choisi l'humour, un peu noir, jouant les hexagonaux fraîchement installés aux Antilles, regrettant déjà leur choix. Mais beaucoup ont été plus sérieux et plus formels. La Bretagne, c'est plus tranquille. L'île n'est pas le paradis des cartes postales ou encore « ne venez pas, c'est complet ». Voilà ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Une façon peut-être de refroidir les envies d'ailleurs des hexagonaux.
Direction maintenant la Martinique avec ce nouvel appel à ne pas consommer l'eau du bord des routes, ces petites sources où certains viennent s'approvisionner. Un appel lancé par Edwige Duclé, coordinatrice du plan Chlordécone 4. Elle est au micro d'Audrey Govindin.
Ces eaux de source de bord de route, il est vraiment recommandé de ne pas les consommer. Pas seulement par rapport au sujet chlordécone, mais par rapport à d'autres pollutions comme les bactéries fécales, qui peuvent être aussi dans ces eaux, et d'autres pesticides ou autres polluants. Donc vraiment, la recommandation, même si je sais que c'est dans notre culture, même si je sais, voilà, j'ai déjà aussi pris de l'eau de source avec mon grand-père sur la route, vraiment, il est recommandé de ne pas le consommer. On peut avoir jusqu'à 1000 fois plus de chlordécone dans les eaux de source que dans l'eau du robinet. Je sais qu'il y a une défiance qui est exprimée aussi sur la qualité de l'eau du robinet. D'après les résultats de l'Agence régionale de la santé, on a un taux de conformité de 100% en Martinique.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va écouter un peu de musique avant de se quitter avec Rodrigo et Gabriella, ce duo très célèbre de guitaristes. Le titre, True Nature. Merci d'avoir été avec nous sur RFI. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et tout de suite, vous retrouvez Chantal Leroux pour l'émission De Vive Voix. Très bonne journée à tous.